Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous aujourd'hui pour notre retour sur du vendredi à l'occasion bien sûr du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Une petite virée dans les archives de l'INA avec la vie quotidienne à Berlin au temps du mur vue par la radiodiffusion française. C'est une émission diffusée pour la première fois le 6 novembre 2009 à l'occasion du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Bougez pas, attention, attention.
Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
Ne vous affolez pas, c'est des manifestants, mais la rue est envahie complètement.
Et pourquoi on ne le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour.
On va monter maintenant sur l'estrade. On verra beaucoup mieux. Dans la journée, c'est toujours plein de touristes parce que tous les touristes du monde entier veulent voir la porte de Brandebourg. C'est quelque chose à voir. Et ils passent tous par ici.
Il a 18 ans, l'âge d'un homme, l'âge de nos fils. Il barre la route à tout, sans distinction, bêtement, aux camions, aux voitures, aux bicyclettes, aux amoureux, aux idées, au soleil, à l'air libre. Il sépare, il tue aussi ceux qu'il prétend protéger. C'est une forteresse à l'envers, le monument de la bêtise élevé par la bêtise, la grande muraille bête du sectarisme et de la haine, le mur de Berlin, l'ombre sur la ville, la grande ombre sur la dignité.
Cela se passe au mois d'octobre 1979, 10 ans avant la chute du mur de Berlin. Ainsi parlait Michel Thauriac dans un fameux vécu, Berlin, l'ombre d'une ville. Ainsi voyait-on le mur et Berlin depuis l'ouest dans nos postes de radio, une vision qui en disait aussi long sur nous que sur eux, sur ce que l'on voulait y voir dans le mur et dans la vie quotidienne à Berlin, sur ce qu'on y cherchait dans tous ces murmures qui l'accompagnaient. Entre 1961 et 1979, les archives de la radiodiffusion française témoignent en effet d'une vision de l'Est très différente de celle de Moscou, tandis qu'à Moscou, on insiste sur une sorte de naturalisme du russe dont les traditions seraient plus fortes que les chars soviétiques. Les pays de l'Est, et Berlin y compris, semblent, eux, noyés sous la grisaille et la tristesse. Ils apparaissent comme des prisons d'où l'on veut à tout prix s'échapper, où rien de la chaleur et du bonheur d'être russe ne surnage, où les petits déjeuners pittoresques de Moscou pris à Berlin-Est deviennent tout à coup dégoûtants. Entre 1961 et 1979, le regard que les Français portent sur le mur est tragique, politique. Il construit le mythe d'une Europe de l'Est sans file d'attente ni pénurie, peuplée d'opprimés et de dissidents. C'est cette voix et cette vision française de Berlin et du mur que vous pouvez entendre jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre et pendant une trentaine d'années sur France Culture.
Nous sommes actuellement près du Reichstag, tout près du mur. La frontière passe derrière le Reichstag.
Gilbert Cinquin, professeur de français à Berlin-Ouest.
Et nous allons maintenant vers la porte Brandebourg. Vous la voyez là-bas, elle est très belle, éclairée. Alors, vous voyez ici le mur qui a été rehaussé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et en face, là-bas, vous avez la porte de Brandebourg, très bien éclairée, qui est déjà en Allemagne de l'Est. Les projecteurs sont sur le quadrige qui est tourné vers Berlin-Est. La frontière passe tout de suite derrière la porte de Brandebourg, la frontière passe ici. Et le 13 août 1961, quand le mur n'était pas encore construit, les faux-pots avaient pris position là, où vous voyez le mur qui fait un cercle devant la porte de Brandebourg. On va faire le tour du Reichstag et on va se trouver devant la Spree. C'est la frontière, oui. Vous pouvez lire ici Wasserunfall. Ce sont des avertisseurs spéciaux qui ont été installés il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 ans, oui, avant l'installation de ces avertisseurs spéciaux, quand quelqu'un tombait à l'eau, les gens de l'Ouest n'avaient pas le droit de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il fallait les voir se noyer, il fallait attendre que les faux-pots veuillent bien se déplacer. Tandis que maintenant, on peut intervenir tout de suite de Berlin-Ouest, mais en prévenant par cet avertisseur également les faux-pots de Berlin-Est, qu'il y a quelqu'un qui se noie et donc ils ne tireront pas. Ça, c'est un accord qui a été passé entre le Sénat de Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Est. Nous arrivons maintenant tout près du mur et ce sont des croix à la mémoire des gens qui ont été tués en voulant franchir le mur. Et vous avez avec leur nom et la date oui, à laquelle ils ont été tués. Oui, et pour certains, c'est marqué inconnu parce qu'on ne sait pas. On a vu que quelqu'un était mort là en voulant traverser la Spree. Seulement, on n'a jamais su qui c'était, alors c'est marqué inconnu. Pour d'autres, nous avons le nom, n'est-ce pas ? Klaus Schröter, qui a été tué le 25 novembre 1965.
Et le dernier ?
Le dernier, c'est en 1973, à cet endroit. Mais vous en avez un peu partout le long du mur des croix comme ça, hein. Vous n'en avez pas qu'ici.
Très clairant.
Unser schönes Berlin wird sauber sein, denn wir haben den kalten Krieg an am Rhein, ihre Menschenfalle verriegelt und mit rotem Wachs versiegelt.
Notre beau Berlin sera enfin propre. Nous avons bouclé la souricière. Oui, oui, le Berlinois dit, le mur, ça purifie l'air.
Les gens de l'Ouest ainsi que de l'Est ressentent de l'amertume envers le mur, parce que c'est quand même, ils ne peuvent, je trouve qu'on ne peut pas vraiment comprendre comment on peut construire un mur comme ça, une telle injustice contre vraiment le vouloir de toute la population.
J'ai tendance à oublier le mur, car il est dans mon environnement, je vis avec le mur depuis ma naissance, je ne connais pas d'autre chose.
Je ne peux pas très bien m'imaginer comment c'est lorsqu'on vit, par exemple, en Allemagne de l'Ouest, et quand on peut, si on veut, au week-end, je sais pas, aller dans une autre ville, c'est pas possible pour nous.
Est-ce que vous le voyez quelquefois, ce mur ?
Presque pas. Quand je vais en Écosse, par exemple, je prends le métro, comme Berlin est une grande ville, alors je le vois pas tellement. Je dois dire que je vois le mur seulement quand il y a des touristes, des amis qui viennent de l'Ouest, ou... Je sais pas, des touristes ici. Alors là, je viens avec eux au mur pour le montrer, je sais pas, tout ce qui se passe ici. Et autrement, je vois pas tellement et je m'en rends pas tellement compte. C'est seulement pour rigoler, quoi. Parfois, quand on est dans la forêt, quand on se promène, on s'est perdu, on dit qu'on ne peut pas aller tellement loin parce qu'il y a le mur qui arrête, quoi, parce que, je sais pas, on ne peut pas aller plus loin. Et autrement, on voit pas tellement le mur. Il n'y a pas de la colère, peut-être de l'espérance que... Un jour, on devrait, je sais pas, il y aura une Allemagne, mais autrement, je sais pas, ça me touche pas tellement.
Ils s'y sont habitués, ils ont été obligés de s'y habituer. Maintenant, ils ne le voient plus, les gens qui habitent ici. Mais, bien entendu, pour eux, c'est toujours quelque chose de... La coupure existe toujours et c'est très dur de supporter cette coupure. En plein milieu d'une ville, regardez, vous avez une route qui est coupée en deux ici. Vous aviez autrefois une route qui passait près de la porte de Brandebourg et qui continuait là-bas, derrière le Reichstag, et qui continuait à Berlin-Ouest. Immédiatement après le mur, après le 13 août 1961, il a fallu construire à toute vitesse une route qui traverse le Tiergarten, parce qu'il n'y avait pas d'autre route.
Voilà les chiens.
Mur de Berlin, avec des gendarmes français en patrouille.
Là, nous pouvons toucher le mur du doigt.
Ah, absolument. Mais oui, y grimper, je ne vous le conseille pas, mais toucher du doigt, oui, volontiers. On va essayer. On est à la barbe des Vopos qui sont devant nous. Enfin, qui sont au-dessus de nous, plutôt. Voyez les pancartes, là, j'ai peut-être omis de vous le dire, vous voyez. à chaque endroit précis du mur, vous trouvez une pancarte, soit en allemand, Endes Französischen Sektors, ou bien fin du secteur français, tout simplement, qui indique les endroits interdits ou éventuellement vulnérables.
On le touche ?
On le touche. On le touche. Attention, il n'y a pas de barbelé, mais il y a des ronces. Voilà, c'est fait. Il est solide, n'est-ce pas ? Nous allons monter au Mirador, je vous en prie. Vous voyez sur notre gauche deux grésos en tenue de campagne qui sont près d'un blocos avec des meurtrières. L'un s'appuie sur le blocos et nous mitraille avec sa jumelle. Tant qu'il s'agit de jumelles, ce n'est pas grave. Les grépos, ce sont les gardes-frontières. Il y a, si vous voulez, une brigade de gardes-frontières de quelques milliers d'hommes qui sont chargés uniquement de la surveillance du mur sur les 167 km qui entourent Berlin. Il y a surtout une zone interdite qui fait à peu près 100 mètres de profondeur, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, une clôture électrique, puis un terre-plein semé de miradors, vous en voyez un, d'abris en béton, vous voyez également, de parcours à chiens, et effectivement, le gendarme qui est à ma droite me fait voir un beau chien policier. Alors regardez, il est accroché, vous voyez, à une, à un câble, vous voyez, et il fait, si vous voulez, un parcours de 100 mètres, et puis au bout de ces 100 mètres, est relevé par un autre chien policier, et ainsi de suite. Vous voyez le mur tel qu'il figure maintenant, c'est-à-dire le mur moderne, n'est-ce pas, avec ses 4,50 m, son rouleau au-dessus. Et voyez quelques mètres avant, dans le petit jardin potager, vous voyez des poteaux en ciment, n'est-ce pas. C'était le 13 août 61, les Vopo ont construit le mur à l'endroit indiqué. C'est-à-dire que le jardin potager, si on tient compte de la limite cadastrale entre le secteur français et le secteur oriental, eh bien le tiers de ce jardin potager, la partie postérieure, si vous voulez, est en zone, en secteur oriental. Autrement dit, les Vopo pourraient revendiquer le tiers de jardin. Les gens sont pratiquement là en squatter, en quelque sorte. Il y a plusieurs jardins, petites maisons qui sont gentillettes, mais enfin qui sont vétustes quand même, les beaux petits valets, belles petites couleurs. Je pense que les gens habitent là en été, vraisemblablement, pendant un ou deux mois, et puis, bien entendu, regagnent l'automne leurs appartements berlinois.
C'est le studio des barbelés qui vous parle. Nous diffusons des informations et des variétés pour la distraction des policiers de la frontière.
Comment la population supporte-t-elle cela, cette séparation ?
Chaque Berlinois de l'Ouest, je crois, a des parents à l'Est. Et c'est pour tout une grande douleur de voir ce mur, de savoir que quelques centaines de mètres derrière le mur, il y a des amis, des parents, même des fiancés, des femmes, des enfants, et qu'on ne peut pas se voir.
C'est votre cas, M. Schussner ? Vous avez de la famille de l'autre côté ?
Oui, j'ai aussi des parents et des amis de l'autre côté, que je n'ai plus vus depuis le 13 août.
Et quelle est l'inscription qui est écrite à la chaux sur le mur là ? Es gibt nur ein Berlin.
Nur ein Berlin, ça a été écrit par des gens de l'Ouest. Et ça veut dire en français, il n'y a qu'un seul Berlin.
Jean-Pierre Elkabbach a rencontré à Berlin une jeune femme. Elle vit à l'Ouest, mais ses parents, eux, sont à l'Est. Cependant, elle a la possibilité de franchir le mur et d'aller voir sa famille. Écoutez son témoignage.
J'ai une carte d'identité d'Hambourg. Et avec cette carte, j'ai la possibilité d'aller à Berlin-Est pour voir ma famille.
C'est-à-dire que les Allemands de l'Ouest peuvent aller à Berlin-Est, mais les Berlinois de l'Ouest ne peuvent pas y aller.
Voilà, c'est juste. Mais il y a même des Berlinois qui cherchent un deuxième domicile en Allemagne-Ouest pour pouvoir y aller. On doit quand même dire ce qu'on apporte comme cadeau, par exemple. Et on ne peut pas apporter tant de choses. La quantité est limitée. Et si on a trop de choses, on doit payer des taxes. Par exemple, pour des choses de luxe, quoi, des fruits, du café.
C'est considéré comme des choses de luxe.
Oui, parce qu'en Berlin-Est, on ne les trouve pas. Ou on peut les trouver, mais ils sont très, très, très chers. Et les gens ne peuvent pas les acheter. Pas des livres, par exemple, des journaux, surtout pas, ou des disques. Alors, pas des choses écrites.
Est-ce que Noël a beaucoup d'importance encore pour eux maintenant?
Je crois pour certaines familles, oui. C'est quand même une tradition encore. Mais il y a aussi tant de gens qui font plus grand-chose.
Pourquoi? Ils ne croient plus, ils ne pratiquent plus? C'est mal vu de pratiquer?
Oui, parce que c'est mal vu. Le sens de cette fête n'est plus le même comme autrefois. Beaucoup de choses sont perdues.
Est-ce que vous pouvez aborder avec eux toutes les questions politiques? Est-ce que vous vous ressemblez encore beaucoup entre vous, Allemands, des deux régimes?
Moi, personnellement, moi, je pense que oui. Même si on s'est éloigné l'un de l'autre un peu, et surtout les opinions sur la politique est assez différente. Mais autrement, les gens sont restés les mêmes.
Au fond de vous, lorsque vous avez vu vos parents de l'autre côté du mur et que vous revenez de Berlin-Est, est-ce que vous vous sentez très proche d'eux ou est-ce que vous vous dites que chaque jour vous en séparez un peu plus?
Oui, ça je dois dire que chaque fois que je les revois, je me sens quand même assez éloignée d'eux déjà. Parce que ça fait déjà plus de 10 ans que je suis partie de Berlin-Est et il y a quand même beaucoup de choses qui sont changées.
Gilbert Cinquin, professeur de français, Berlin-Ouest.
Ici, par exemple, il y a, lors de la visite d'une délégation du Parti communiste français, d'une délégation qui venait du Nord, il y a l'interprète s'est enfui devant, sous le nez des communistes français lorsqu'ils étaient justement en train de discuter avec les policiers. Il est passé, il est sauté, il est passé par-dessus le mur. Mais ça arrive une fois, bien entendu, après. Après, on ne peut plus recommencer. Hein. Il y en a un aussi, un caméraman de Berlin-Est, il a filmé, tout en reculant petit à petit, d'un seul coup, il a balancé sa caméra et tout ce qu'il avait, il est passé à l'ouest.
Le jour même de la fuite, c'était un dimanche matin, il y avait le passeur qui est venu me chercher, tout s'est passé vraiment vite. Je devrais donner les piqûres d'anesthésie à mes enfants. J'ai dû promettre que je ne sors pas de la voiture. Les passeurs ont sorti les enfants de la voiture et ils ont presque jeté dans l'autre voiture, dans le coffre de l'autre voiture. Et quand j'ai vu partir mes enfants dans l'autre voiture, j'ai pleuré. Après, on a repris la route et tout à coup, il y a le passeur qui m'a dit « Bon, c'est maintenant pour vous aussi l'instant de changer la voiture ». Et on s'est arrêté et moi, ça allait tellement vite que je ne sais même pas comment ça s'est passé, mais je me suis retrouvée dans le coffre d'une voiture. Et j'avais vraiment peur, j'ai entendu des voix, mais j'ai rien compris. Et puis, on a continué à rouler et tout à coup, la voiture s'est arrêtée. Et j'ai pensé qu'on était encore à l'est. Alors je me suis préparée pour sauter du coffre, pour arracher les yeux à celui qui va ouvrir le coffre. Et tout à coup, il y avait le coffre a été ouvert et j'ai entendu une voix qui a dit « Regarde, elle est là comme un chat ». Et j'ai vu qu'il n'y avait pas l'uniforme d'un soldat de la RDA. Et alors en ce moment-là, je savais que c'était réussi.
Cette gare, c'est affreux. Et d'ailleurs, tu sais bien, d'ici, on part à 3 stations de métro d'ici, on passe à la frontière, à la Friedrichstrasse. Et là, il y a les points de contrôle pour passer à Berlin-Est. Et alors, on a déjà un pressentiment ici, je trouve, un pressentiment de l'autre côté. Avant, il y avait beaucoup de grandes gares. Maintenant, c'est une gare assez petite, on dirait une gare de métro. C'est maintenant le point de départ principal pour aller ailleurs.
Oui.
Et peut-être les gens attendent une chance d'aller ailleurs. Il y a du trafic, peut-être, il y a aussi la contrebande. Moi aussi, j'étais arrêté ici par les douaniers qui me soupçonnaient de porter des choses de l'Est. On ne sait pas trop quoi on peut porter de là-bas, mais on a l'impression qu'il s'y passe ici plus de choses qu'on ne voit au premier coup d'œil. Il y a aussi, il passe aussi beaucoup des étrangers. Si on regarde un peu, on voit des Noirs qui vont à Berlin-Est, des Cubains, des Algériens, des gens de tous les coins du monde. Et il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas les sous. Sur cette gare-là, surtout dans la nuit, on trouve des gens sans profession, des gens sans aller, sans logement parfois. Et alors, parce que dans cette situation de deux villes dans une ville, il y a aussi la chance de jouer l'un côté vers l'autre, n'est-ce pas? Alors les gens désespérés, il y avait des réfugiés de tous les côtés qui sont passés d'ici là, et de là, ils sont rentrés ici, etc. Pour 20 000 marques, on peut toujours arranger quelque chose pour les réfugiés. Si on veut sortir quelqu'un de là-bas, il y a des gangs qui s'en occupent de ça, mais c'est une affaire bien équivoque parce qu'il s'est passé aussi des histoires où ces commerçants ont vendu les gens au service secret de l'Est.
C'est maintenant Friedrichstrasse. Je suis en plein Berlin-Est. Et je descends. En haut de l'escalier, je vois une librairie. Les livres qui sont exposés, leur nombre est assez restreint. Les titres Marx, Engels. Je vois également un Marx à la portée de la mère de famille. On voit une photo avec un père, une mère, des enfants, et tout le monde se penche sur le livre de Karl Marx à la portée de la famille.
Wolf Biermann, chanteur dissident d'Allemagne de l'Est.
Was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Keiner tut gern tun, was er tun darf. Was verboten ist, das macht uns gerade scharf.
Ce qui est interdit, voilà ce qu'on désire.
Eure schönen Frauen liebt, die euch doch zwei Hörner setzen, statt das eine aufzurichten, rat ich, lass die Eifersucht, löst des Ehrings harte Fessel. Lass die schöne.
Personne n'aime faire seulement ce qu'il a le droit de faire. Ce qui est interdit, voilà ce qu'on désire.
Na, weil keiner tut gern tun, was er tun darf. Was verboten ist, das macht uns gerade scharf.
En politique internationale encore, Berlin occupe de nouveau la première place après la nuit agitée qu'ont connue les Berlinois. Vous savez peut-être que toute la nuit, des milliers de travailleurs communistes ont renforcé le fameux mur qui sépare les deux Berlins. Notre correspondant a pu franchir l'un des passages, il y en a de moins en moins, vous le savez, et il nous raconte en tout cas ce qu'il a pu voir de l'autre côté.
J'avais déjà passé plusieurs fois les chicanes de la Friedrichstrasse, mais la curiosité aiguillant toujours les reporters, j'ai voulu, cet après-midi, voir l'autre côté du nouveau mur. Et je dois ici avouer une erreur. J'avais ce matin estimé son épaisseur à 1,30 m environ. En réalité, la muraille a au moins 2 mètres ou 2,50 m d'épaisseur. Première arête. Un faux pot exige mon passeport. Poliment, il faut le reconnaître. Derrière lui, des ouvriers de l'armée populaire lavent à grands jets les traces de ciment et de sable. 3 ouvriers contrôlés par 10 ou 12 policiers. Comme au passage d'une frontière, mon passeport est examiné pendant que l'on inspecte mon coffre à bagages et me demande ce que je possède comme devises étrangères. Puis, départ vers l'est. Ici, une zone morte. Sur 200 mètres environ, rien. C'est-à-dire rien sauf des uniformes. Puis apparaissent les premiers civils. Ils ont l'air aussi tristement surpris que les Berlinois de l'Ouest. Peut-être encore plus tristes. Et j'en ai su une des raisons, égoïste peut-être, mais humaine. Depuis la création du mur, il y a eu un tel envoi spontané de paquets d'Ouest en Est que les services postaux sont débordés. Le bruit court qu'à partir du 15 décembre, tout envoi de l'Ouest sera assujetti aux droits de douane. J'ai pu parler à plusieurs personnes. L'impression dégagée, nous en avons assez. Peu de passants, l'atmosphère habituelle pesante et triste du secteur Est. L'odeur particulière, peut-être due au carburant. Enfin, retour à l'Ouest après les formalités du mur. Et que vois-je en premier lieu ? Deux gendarmes, deux braves gendarmes français. Et croyez-moi, jamais gendarmes ne m'ont paru plus sympathiques que ceux-ci. Alors qu'à 500 mètres derrière eux, automitrailleuses et chars américains, parqués à côté d'un entrepôt d'arbres de Noël, veillent sur le maintien de la tranquillité, de la liberté de passage entre ces deux mondes, si proches, si lointains à la fois. Ici Berlin, à vous Paris.
Ich in der Nacht, meine Seele wacht und lauscht. O Herz, hörst du, wie es klingt, in den Palmen singt und rauscht. Der Wind hat mir ein Lied erzählt, von einem Glück unsagbar schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt, für wen es schlägt und glüht. Er weiß, für wen.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre avec une vision française de la vie quotidienne à Berlin. Reportage Sonia Kronlund réalisé par Assia Khalid, au mixage Jean-Benoît Tétu, Archie, Vina, Hervé, Evano, Anne-Laure Veil, Émilie Trazan, de l'attachée de production. C'est Sandrine Chaperon avec, à l'époque, Anna Brender. Vos commentaires, vos réactions, vos suggestions, ce que vous voulez nous dire ou savoir, c'est toujours sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. C'est Delphine Lemaire qui a remis en boîte cette rediffusion. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi sur France Culture, évidemment.